Jusqu'à 14h, la France bouge avec Raphaël Duchemin et avec maintenant Elisabeth Assayag et sa solution du jour. Aujourd'hui, eh bien, c'est une solution destinée aux locataires pour leur permettre de trouver un garant solide.
Vous souhaitez peut-être louer un appartement. Elisabeth, il existe une solution. Elle s'appelle Uncle. Uncle qui propose d'être le garant.
Et oui, savez-vous de quoi on a besoin pour louer un appartement aujourd'hui ?
D'argent.
Oui,
bonne réponse. Mais parfois d'avoir quelqu'un derrière nous.
Il faut avoir une situation professionnelle stable, de préférence un CDI. Gagner l'équivalent de 3 fois le loyer et disposer d'un garant solide, prêt à payer en cas de problème pour régler le loyer. Ce sont des critères qui ne sont pas toujours faciles à réunir, surtout qu'en cas de loyer impayé ou de surendettement, un locataire s'expose à une expulsion locative. Bonjour Mathieu Luneau.
Bonjour Elisabeth.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Uncle, U-N-K-L-E. Votre idée, c'est de rééquilibrer le rapport de force entre locataire et propriétaire en devenant le garant ?
Tout à fait, c'est exactement ça.
Comment ça marche ?
On a deux très bonnes nouvelles du coup pour les auditeurs d'Europe 1. La première pour les locataires, c'est qu'on peut devenir garant de tous les locataires que vous avez décrits. Tous ceux qui n'ont pas de CDI, tous ceux qui n'ont pas de garant solide, tous ceux qui ne gagnent pas au moins 3 fois le loyer ou qui n'ont pas d'historique bancaire. Donc on va les aider à louer plus facilement un appart. Et la deuxième très bonne nouvelle, c'est côté propriétaire. Du coup, on sécurise totalement le loyer des propriétaires sur toute la durée du bail et sur tous les renouvellements.
Mais comment faites-vous ? Comment se fait-il qu'on n'y a pas pensé avant ? Vous faites comment ?
Bah écoutez, on est en partenariat avec un assureur. Donc c'est en effet dommage qu'on n'y ait pas pensé avant, mais... Moi-même, j'ai été confronté à la problématique parce que je suis ancien avocat, donc indépendant. J'avais pas de CDI et c'était hyper compliqué pour moi d'avoir une solution facile d'accès.
Pourtant,
pour
vous
louer.
Gagnez bien votre vie, je crois.
Exactement.
Et ouais. C'était compliqué de
tout
trouver.
À fait. Et c'était compliqué. Donc, on a mis en place une solution qui permet à tout locataire de trouver un garant en moins de 3 minutes sur Internet.
Alors, comment on s'y prend ? On se connecte sur Uncle.fr ?
On se connecte sur Uncle.fr. Il y a un tout petit process à remplir. Ça prend 3 minutes. Et derrière, on a une réponse immédiate. Et un certificat qui peut être émis en moins de 2 heures. Donc une garantie qui peut être émise en moins d'une journée pour sécuriser à la fois locataire et propriétaire.
Pour sécuriser justement le propriétaire, je crois que vous avez mis au point un système de notation pour garantir la fiabilité du locataire.
Oui, tout à fait.
Vous voulez noter ?
Oui. Alors la notation, on le prend, c'est un système de scoring. C'est comme de l'analyse crédit en fait. C'est pour nous en interne pour savoir si telle ou telle personne peut être éligible à notre garantie. Donc nous, on peut se porter garant des locataires qui ont un taux d'effort. Mais c'est exactement la même chose qu'un risque de crédit.
Donc vous en refusez ?
Comme pour une banque.
Donc exactement. Donc on en refuse malheureusement parce qu'on est lié aux conditions de notre assureur qui nous impose...
De votre partenaire.
Exactement, qui nous apporte certaines conditions. Après, il faut savoir qu'on est très large en termes des conditions. Donc c'est possible de garantir pas mal de locataires.
Eric ?
Non mais moi je trouve l'idée très bonne. En plus ça m'est arrivé aussi. Mais moi c'était un autre problème. C'est parce que j'étais corse. Donc ils voulaient pas me le louer à moi, donc ça va être compliqué dans cette histoire-là. Ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez vous faire connaître. Je trouve forcément l'idée bonne, ça va régler les problèmes de tous les gens qui ne sont pas avec des CDI, qui ont des emplois personnels. Comment vous vous faites connaître aujourd'hui, maintenant que vous n'êtes plus avocat ?
Ouais.
Je viens de comprendre que vous avez décidé d'abandonner avocat pour être entrepreneur.
Exactement,
génial.
Comme pas mal d'avocats d'ailleurs, malheureusement.
Allez-y.
Peut être les deux parfois.
Oui, exactement. Ouais. On se fait connaître par 3 canaux différents. Le premier, c'est le digital, ce qui marche, donc la pub sur Internet. Le deuxième, c'est les agences immobilières et les professionnels de l'immobilier par lesquels on va passer et qui vont être en fait un prescripteur de notre solution. Et le dernier canal, c'est les partenariats. Donc à la fois des partenariats avec des boîtes qui vont pouvoir le proposer à leurs salariés pour faciliter leur accès à la location, à la fois avec des plateformes qui proposent des locations immobilières et à la fois des banques en ligne. Voilà, pas mal d'acteurs qu'il faut du coup viser et travailler successivement.
Alors, bonne nouvelle pour Uncle, vous avez levé récemment 1 million d'euros.
Tout à fait.
Ça a été difficile de les lever ?
Non,
ça
a été plutôt facile et j'en profite pour remercier nos investisseurs qui nous font confiance. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit appel aux prochains investisseurs. On sera sûrement en train de rechercher de l'argent bientôt. Donc,
faire quoi justement cet argent à venir ? Pour développer encore le modèle ?
Ouais, exactement.
Qu'est-ce qui reste à aller chercher ?
Malheureusement, c'est un peu comme ça que les startups sont bâties. On consomme du cash assez rapidement.
Il faut juste l'accélérer.
Exactement, accélérer. Donc on est déjà présent dans toute la France. Le but, c'est de mettre en place des nouveaux produits et derrière d'aller chercher potentiellement de l'international. Alors, ce ne sera pas le cas avec la prochaine levée, mais voilà. On avance vite en tout cas.
Et vous êtes hébergé notamment à la station F.
Exactement.
Et vous faites partie du top 30 des startups qui représentent les plus gros succès du campus depuis la création. Ouais. Vous l'expliquez comment ?
Je l'explique pas trop, mais on est ravis en tout cas d'en faire partie. On a un super accompagnement de Station F qui, j'en profite, qui est pas mal.
10 salariés là chez vous ?
Oui, tout à fait. Et petit mot de remerciement pour Station F qui est pas mal décrié, mais je pense que c'est important que tous les entrepreneurs fassent corps derrière l'institution que représente Station F et la marque qu'elle a envie d'instaurer, parce que c'est justement en créant des géants comme ça qu'on va pouvoir se mettre à peu près au même niveau que les États-Unis. Et développer des belles solutions qui vont aider les entrepreneurs à grossir.
Et vous, ça vous a effectivement aidé. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'Uncle. C'est
Merci,
la
Elisabeth.
Solution aujourd'hui. On reste ensemble, bien sûr.
Il est 12h57.
Europe 1.
Et dans un instant, on vous attend. Vous qui êtes derrière votre poste en ce moment, venez nous dire comment vous faites pour que vos enfants lâchent leurs écrans avec peut-être des trucs maison pour leur apprendre à gérer. Venez les partager. 3921 et Twitter. À tout de suite.
Europe 1, 12h30, 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. On vous attend pour nous dire comment vous faites pour gérer la consommation d'écran de vos enfants. Téléphone portable, ordinateur, tablette. Nous sommes nous-mêmes adultes, hyper connectés. Pas simple du coup de leur expliquer qu'il faut s'en servir avec modération. Alors, certains tentent des expériences. C'est votre cas, Nathalie Moulin. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la présidente de l'association 10 jours pour voir autrement. Avec nous dans ce studio, Elisabeth Assayag qui va nous éclairer. Et notre coach aujourd'hui, c'est Éric Léandre. Il connaît ça par cœur, hein, évidemment, les connexions, puisque c'est le fondateur de Quant. Vous êtes basée à Chatou et vous êtes enseignante. Et je crois qu'en 2015, tout démarre avec la remise d'un prix littéraire. Et là, les enfants vous bluffent.
Oui, complètement. En fait, lors du prix littéraire de la médiathèque, en fait, les enfants ont plébiscité le livre qui est là, « 10 jours sans écran » de Sophie Rigal-Goulard. Et alors là, je suis scotchée, je me dis, mais si des enfants décident de choisir un livre qui parle d'une détox numérique, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à faire.
Donc, le livre prône l'arrêt temporaire des écrans, en tout cas, et vous dites, il y a peut-être quelque chose à inventer. Donc, vous vous tournez vers l'école ?
En fait, c'est ça. Je vais voir la directrice de l'école de mes enfants parce que c'est juste une idée. Et je lui propose de vivre justement l'histoire de ce livre qui est de couper avec l'équipe enseignante, de couper les écrans pendant 10 jours.
Comment on fait pour couper les écrans pendant 10 jours ? Ça se prépare ?
Alors, ça se prépare, oui, en amont pour se rendre compte de sa propre consommation. Mais ensuite, une fois qu'on est dans ces 10 jours-là, on tente l'aventure, on expérimente ces 10 jours et on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement facile parce qu'on a des activités qui sont proposées. Alors justement, c'est l'objet de ce livre et c'est l'objet de notre association. On propose des activités gratuites pendant les 10 jours qui aident les enfants justement à faire autre chose.
Ils décrochent parce qu'ils ont quelque chose à faire à la place. C'est une autre activité, quelque chose de plus ludique, quelque chose qu'ils font ensemble.
Alors, c'est des activités qu'ils peuvent faire avec leurs parents. Il y a beaucoup d'activités qui se passent parents-enfants et ça, c'est essentiel parce qu'on recrée en fait ce lien que les écrans peuvent abîmer.
Oui, et puis ça empêche aussi les parents pendant ce temps de regarder leur téléphone portable. C'est un défi, ils sont challengés, c'est ça aussi qui fonctionne auprès des enfants.
Ah oui, ils adorent relever le défi. Alors au début, c'est difficile quand on leur dit on va se passer d'écran pendant 10 jours. Pour eux, ils se disent mais comment est-ce qu'on va y arriver ? Ils y arrivent très bien. Et au final, les témoignages qu'on a à la fin, c'est les parents qui nous disent que pour eux, ça a été plus difficile.
Ça a très bien marché dans cette école. Hein. Par la suite, vous êtes allé voir la mairie. Vous vous êtes dit, si ça marche dans une école, pourquoi pas dans d'autres ? Finalement, ça a fait boule de neige.
Tout à fait, tout à fait. Ça a fait boule de neige parce que là, notre dernière édition, en mai 2019, on a réussi à faire le défi dans toutes les écoles, à proposer le défi dans toutes les écoles de Chatou et dans deux collèges.
Il faut dire que si on regarde justement les écrans, les chiffres sont plutôt édifiants, hein, Elisabeth.
Oui, hein, un sondage Ipsos avait révélé que les 13-19 ans passent plus de 15 heures par semaine sur Internet, hors réseaux sociaux, hein, 15 heures par semaine. 84% des 13-19 ans possèdent un smartphone et en cas de surexposition, des études montrent très clairement un retard de développement chez les plus petits. D'ailleurs, les professionnels de la petite enfance le remarquent déjà dans l'observation où ils sont avec eux toute la journée. En 10 ans, les petits ont plus de difficultés dans leur capacité fine, notamment tiens, par exemple dans l'empilement d'une tour. c'est plus compliqué parce qu'ils passent du temps sur les écrans à la maison.
Que dit notre coach, Éric Léandre ?
Alors, je rappelle que dans la Silicon Valley, hein, donc le temple de la tech, les trois quarts des CEO des très grandes boîtes mettent leurs enfants dans des écoles où il n'y a strictement aucun écran.
L'école Waldorf, notamment.
Exactement. Donc, je pense que le ramener chez nous, ça sera une très bonne idée. J'y crois beaucoup sur le fait que ça va être chez les parents que ça va être le plus dur.
Oui.
Donc, moi, je crois que je vais essayer ça. Ma femme ne va pas y croire. Là, je viens de le dire, mais j'espère qu'elle n'écoutait pas.
Nous non plus, pour être tout à fait honnête.
On vous invite à participer au 10 jours l'année prochaine.
Il faut.
Vous parliez justement de l'école Waldorf. On en dit un mot peut-être, Elisabeth ?
Mais oui, ça se passe en Californie, cette école Waldorf qui a banni les écrans de tous ses enseignements. C'est à voix des demandes d'inscription de plus en plus importantes. Là-bas, la pédagogie, elle est axée seulement sur la relation humaine. Il y a aujourd'hui 450 élèves de la maternelle à la terminale, et à la place des applications et des algorithmes, eh bien eux, ils étudient et apprennent avec des crayons et du papier.
Ce qui permet de faire des applications et des algorithmes.
Oui, en plus, c'est bien de le préciser.
C'est vrai. Nathalie Moulin, vous avez développé du coup une plateforme internet, alors ça c'est l'ironie de l'histoire, j'ai envie de dire, pour donner les outils aux professeurs et reproduire le défi pour que ça puisse justement essaimer.
Ben c'est ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est-à-dire que la plateforme est en cours de réalisation. On souhaite, en fait, on a vu que le retour des parents et le retour des enfants était vraiment là, et qu'il fallait qu'on continue. En fait, on a envie de continuer, en fait, parce que c'est un combat extrêmement important. Donc oui, on va effectivement
mettre en place cette plateforme. Vous en êtes où ? Elle va démarrer ? Elle est prévue pour quand ?
Elle est prévue pour fin novembre normalement. Et là, on a des collectivités territoriales qui nous contactent, que ça soit le département, la région, les maires des autres communes, qui nous disent nous aussi, on a envie de monter ce projet. Aidez-nous.
Et il y a d'autres régions qui s'y sont mises également avec le pendant de ce que vous faites, vous, du côté de Chatou.
Oui, je pense que plus on sera nombreux à faire prendre conscience les familles et les enfants sur ces utilisations des écrans, plus on sera nombreux, plus on y gagnera.
Et alors, vous voulez proposer en février 2020, moi ça m'a intéressé, les assises de l'attention, parce que c'est vraiment le problème central,
oui,
l'attention des enfants.
Tout à fait. En fait, l'association des 10 jours fait partie d'un collectif d'associations qui cherche justement à trouver des solutions ensemble, parce que c'est qu'ensemble qu'on y arrivera, et propose en février prochain les assises de l'attention.
Elisabeth, si on abuse des écrans, ça modifie le cerveau des enfants.
Des études le montrent. Hein. D'ailleurs, il y a une étude qui a été menée par les recherches des instituts nationaux américains de la santé. C'est très sérieux, menée auprès de plus de 4500 enfants âgés de 9 et 10 ans. Et il le montre qu'un cerveau d'enfant qui passe plus de 7 heures par jour devant un écran, eh bien, son cerveau ne ressemble pas à un autre, enfin aux autres cerveaux qui passent moins de temps par jour. Il y aurait un déficit de langage, des capacités intellectuelles à partir du moment où un enfant passe plus même de 2 heures par jour devant un smartphone, une tablette ou même la télévision.
Eh oui. Éric, un commentaire, je vois réagir.
J'en ai un, moi, franchement j'y crois beaucoup, et quand on entend ça, on ne peut qu'avoir envie en tant que parent ou en tant que spécialiste de ce type de problème de vouloir aider. Le ministère, il est au courant ? Ils ont déjà vu ? Vous êtes remonté jusqu'au ministre ?
Pas encore, non. Bon, pas encore jusqu'au ministre. Mais...
On va essayer de voir tout à l'heure à l'Élysée ce qu'on peut faire pour pousser ça. Je vais partir avec une plaquette ou quelque chose.
Avec
c'est
plaisir.
Pas possible dans cette logique où on doit aider les enfants dès leur plus jeune âge. Il faut les protéger maintenant.
Oui, parce que surtout que ça peut paraître culpabilisant, mais ce n'est pas le
cas.
Oui,
tout à fait. Le problème, c'est qu'il faut proposer aux parents quelque chose en échange. On ne peut pas juste leur donner des chiffres en leur disant « débrouillez-vous ». Avec vos enfants. Non, il faut proposer des actions, vraiment.
Ça, c'est une méthode. Comment réagissent les parents ? On a vu que les enfants adhéraient complètement. C'est même eux qui ont initié le projet. Les parents, ils arrivent à s'y mettre facilement ? Ils sont convaincus une fois qu'ils ont passé le cap des 10 jours ?
Les parents, en fait, ce sont leurs enfants qui leur rappellent pendant les 10 jours en leur disant « Pourquoi tu as ton téléphone à table ?» alors qu'on nous a expliqué qu'il fallait qu'on passe du temps ensemble. Et c'est les enfants qui font prendre conscience aux parents. Il y a une famille qui a témoigné, qui nous a dit « Mais nous, on y croyait, on ne consomme pas trop d'écran. » Et donc, on ne voyait pas trop l'intérêt de participer à ces 10 jours. Et en fait, on a été bluffés par nos enfants qui nous ont fait des réflexions sur notre propre consommation d'écran. Donc là, je pense que c'est gagné.
On reste ensemble et on parle des écrans aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h18. Europe 1.
Aider les enfants à lever le nez de ces écrans, ça passe aussi par le contrôle. C'est pour ça que Parents par âge est né. À tout de suite.
13h21, on retrouve Raphaël Duchemin pour la suite de La France Bouge. Tablette, smartphone, télévision, difficile pour un enfant de se passer des écrans? Eh bien, on en parle avec vos invités, Raphaël.
Si on laisse une tablette, un jeu vidéo en libre service à notre enfant, va-t-il être tenté d'y passer des heures? Eh bien, la réponse est oui, mais c'est aussi à nous, parents, forcément, d'avoir les bons réflexes. Bonjour Yann Maréchal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé Parents dans les parages. C'est un portail de contrôle parental. Racontez-moi à quel moment vous est venue l'idée et comment elle est née.
Alors effectivement, Parents dans les parages, c'est un portail de contrôle parental. Moi, il se trouve que j'ai trois filles. Donc, ils sont maintenant un peu plus grandes, 23, 21 et 19. Donc, elles sont un peu sorties de l'adolescence et de l'enfance. Et donc, ce projet, je l'ai monté parce que vers 2010-2011, j'ai cherché une solution pour mes enfants, une solution pour pouvoir limiter, bon, c'était l'ordinateur à l'époque, pouvoir limiter l'ordinateur et surtout une solution que je puisse piloter à distance.
C'est-à-dire
qu'il
n'y avait rien.
Il y avait des choses, mais elles n'étaient pas pilotables à distance. Et donc, travaillant dans l'informatique avec mon associé, on a commencé à s'intéresser au problème. On a lancé une formule gratuite pour que les gens puissent contrôler l'ordinateur à distance. Et petit à petit, le concept est né. Et en 2012, on a créé la société.
Donc, il y a un premier prototype qui sort en 2012, effectivement, quand la société est créée. Et vous continuez à travailler sur ce prototype pour essayer de l'améliorer. Vous faites 3 ans de recherche et développement, c'est ça?
Oui, alors on a commencé à commercialiser. Et puis, donc c'est toujours par amélioration, un produit informatique. Donc, on a quelque chose qui se vend. On a étendu aux smartphones, aux tablettes. Et on a surtout fait beaucoup de R&D concernant le filtrage Internet. Parce qu'on s'est intéressé finalement à avoir des filtrages Internet qui soient très précis, mais qui ne brident pas les enfants dans les autres recherches. Et donc, on a développé beaucoup d'algorithmes d'intelligence artificielle pour, à partir des textes des sites et également des images, pour avoir une classification fine pour justement empêcher les contenus inadaptés.
Qu'est-ce que fait Parents dans les parages? Ça filtre justement les sites, ça peut sélectionner le contenu?
Alors, Parents dans les parages, ça fait 3 choses principales. D'abord, c'est un outil pour les parents. Ça les aide à avoir une action de parentalité dans le domaine du numérique, ce qui est, on en a parlé, pas du tout facile. Ça fait 3 choses. Ça gère le temps d'utilisation sur les différents écrans. On peut également grouper sur plusieurs appareils le temps maximum.
Qu'est-ce qui se passe quand le temps est terminé?
Alors, quand le temps s'arrête sur un ordinateur, la session se ferme. Et sur un téléphone, on garde au choix du parent quelques applis qu'on appelle essentielles. Par exemple, le réveil, la calculatrice, le téléphone si besoin. Donc, la gestion du temps, le filtrage Internet, on en a déjà parlé. Mmh. Et aussi la gestion des applications. C'est-à-dire, on peut considérer qu'un parent, pour un enfant jeune, il peut choisir les applications que son enfant va utiliser sur sa tablette, par exemple.
Elisabeth, je crois que vous avez trouvé une autre solution pour le contrôle parental.
Oui, ça s'appelle Family Box. C'est un petit boîtier qui se branche sur la box de la maison. Et en même temps, ce boîtier fait office de contrôle parental. Concrètement, il filtre à la fois l'accès aux millions de sites web qui sont répertoriés comme dangereux. Ils sont quotidiennement remis à jour et ils tracent les sites que vos enfants consultent. Donc, c'est une box qui permet de prendre le contrôle des connexions web de la famille, des smartphones, des tablettes, des ordinateurs, et elle crée son propre réseau, son propre environnement Wi-Fi parfaitement sécurisé.
Eric ?
Non. Je travaille un peu dans ce domaine parce qu'on a lancé Quant Junior, donc on a fait un moteur de recherche sécurisé pour les enfants. C'est très compliqué. J'ai entendu parler d'intelligence artificielle. J'imagine aussi qu'il y a les gens qui aident sur le réseau, non? Les parents, les différentes personnes qui choisissent.
Non,
ou qui
on ne fait pas de collaboratif. D'accord. En fait, c'est notre algorithme qui sélectionne tous les sites qui sont utilisés par notre population et ils sont en permanence réanalysés.
Testé,
et classifiés.
Ouais.
Tout à fait.
Et donc, c'est quelque chose de complexe, mais c'est quelque chose qui peut se cumuler. Donc, ça peut être la Family Box, plus ce logiciel, plus le nôtre, plus des produits pour la communication chez les enfants.
On met des pare-feux.
Exactement. Ou alors, on fait un peu plus simple, on va le gérer avec l'enfant. C'est-à-dire qu'on va être avec l'enfant. On est avec l'enfant aussi. Parce que donner à son enfant ce type d'outil avec tous ses pare-feux et croire que ça va bien, c'est retomber dans la discussion.
Alors,
de tout
si
à l'heure.
Si je peux me permettre, c'est un complément en fait. Hein.
Mais c'est
sûr,
vraiment
un complément. C'est-à-dire que d'ailleurs, la plupart du temps, nous, ce qu'on conseille, c'est mettez le contrôle parental, ne filtrez rien, regardez combien de temps passe votre enfant sur l'appareil. À partir de là, si l'utilisation est raisonnée, raisonnable, il n'y a pas de raison d'intervenir.
C'est quoi raisonnée, raisonnable ?
Raisonnée, raisonnable, c'est-à-dire effectivement que ça n'empiète pas, ça dépend des enfants, ça dépend des âges, mais que ça n'empiète pas sur les activités essentielles de l'enfant, c'est-à-dire le sport, la culture, le jeu, toutes ces choses qui font qu'un enfant va se développer en fait.
Vous fonctionnez par abonnement aujourd'hui. Que vous disent les utilisateurs ? Est-ce que vous avez des retours ? Est-ce qu'on vous dit, depuis qu'on a installé le contrôle parental, effectivement il y a une prise de conscience chez mon enfant ?
Oui, on a des retours, puisque par exemple, une des principales utilisations, c'est d'empêcher le smartphone, ça paraît bête, la nuit, puisqu'il y a beaucoup d'ados qui se connectent la nuit sur les réseaux sociaux. Donc les parents voient du changement. Après, je suis d'accord, l'outil ne fait pas tout. Mais c'est souvent un outil qui aide à prendre conscience les parents et qui les aide à avoir un soutien, un appui, et du coup, ils discutent du sujet avec leurs enfants.
En vrai, je voulais juste finir ma phrase sur ce point. Comment tu te fais connaître, parce que il faut ces outils aussi. C'est pour ça, c'était pas il ne les faut pas, c'est il les faut aussi. Comment tu te fais connaître ?
Alors nous, on a
vous avez signé des contrats,
oui,
déjà.
Oui, on a deux types de ventes. On a des ventes en direct, hein, donc on se fait connaître par classiquement par du web marketing, de la recherche Google, etc. Et puis on a aussi très tôt commencé à s'intéresser aux opérateurs, parce que pour nous c'est un vecteur essentiel de distribution. Donc on a signé dans le passé un partenariat avec Virgin Mobile qui maintenant a disparu, et maintenant on est partenaire exclusif de Bouygues Télécom pour le contrôle parental premium. Donc ils le proposent à leurs abonnés et donc ça permet d'étendre un peu l'audience, mais cette audience doit encore être étendue.
On reste ensemble et on continue à parler du contrôle des écrans pour les enfants aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h28.
Europe 1.
Et pourquoi ne pas offrir à l'enfant la possibilité d'une connexion à sa hauteur ? C'est ce qu'a imaginé, entre autres, Mailo, le webmail gratuit pour les jeunes. A tout de suite.
Jusqu'à 14h, c'est La France bouge sur Europe 1 avec Raphaël Duchemin. Vous êtes peut-être parent et préoccupé par la sécurité numérique de vos enfants. Comment les protéger des écrans ? Alors, on a parlé jusqu'à maintenant des dangers sur leur santé et leur développement. On a évoqué aussi les menaces du web. Et bien, on va continuer d'en parler parce que c'est le dossier du jour, Raphaël.
Mieux gérer l'utilisation des écrans, c'est aussi apprendre à nos enfants comment s'en servir, ne pas tout interdire, mais leur montrer comment ça marche, les accompagner aussi dans leur utilisation. Bonjour Pascal Voya.
Oui, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un des fondateurs de Mail Object qui propose Mailo Junior, un webmail gratuit sécurisé pour les enfants. Mail Object est né en 2002, je crois, mais c'est finalement cette année, hein, en 2019, que vous avez décidé de lancer cette messagerie junior. Pour quelle raison ?
Non, pas tout à fait. En fait, ce qu'on a lancé cette année, c'est Mailo. Et Mailo, c'est une messagerie grand public avec également...
Avec Mailo Junior dedans.
Avec Mailo Junior dedans.
Oui, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. D'accord. On est bien d'accord.
Mais disons qu'il y avait NetC Junior avant.
Oui, oui, c'est pour ça que j'ai parlé de 2002. On est bien d'accord. Voilà, c'est là que tout démarre.
Il y a eu, NetCourrier, NetC, Mailo. Et à l'intérieur de ce service de messagerie, il y a Mailo Junior.
Donc Mailo Junior, pourquoi ? Qu'est-ce qui vous interpelle ? Pourquoi ce sujet-là, plus particulièrement ?
Déjà, on est tout à fait d'accord avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et on fait également les mêmes analyses. Simplement, aujourd'hui, l'Internet, on ne peut pas totalement s'en séparer et personne n'a envie. Et donc, l'idée, la question qu'on s'est posée, c'est comment on allait accompagner nos enfants dans l'Internet dans lequel ils vont vivre à partir de maintenant. Et on a vu qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de notre messagerie grand public qui hésitaient à créer une adresse mail pour leur enfant, qui hésitaient à leur donner accès aux réseaux sociaux et donc qui les empêchaient de toute utilisation. Et ensuite, on s'aperçoit que lorsqu'ils arrivent au collège et que même les professeurs ont besoin d'échanger avec les élèves, il faut tout d'un coup ouvrir un compte. Et l'enfant, du jour au lendemain, il est lancé dans le grand monde, dans le grand bain et il ne connaît pas, et il ne sait pas se protéger.
Du coup, ce sont les parents qui ouvrent le compte pour les enfants chez vous, c'est
voilà,
ça ?
Voilà, tout à fait, oui. Donc en fait, c'est un service qui, plus que pour les enfants, est un service familial. D'un côté, on rassure les parents parce qu'ils encadrent l'utilisation Internet, e-mail de leur enfant, et on rassure l'enfant parce qu'il ne pourra pas être importuné par des spams ou des messages indésirables, parce que pour qu'il communique avec quelqu'un, il faut qu'il y ait une validation du parent. Et ensuite, on rajoute au carnet d'adresse de l'enfant ses parents. Et après, il y a une communication libre.
On a une utilisatrice là, c'est Linda Costa.
Oui, hein, ouais, ma fille, on lui a créé un mail parce qu'elle voulait correspondre avec ses petites amies un petit peu partout en France. Bon, elle a 5 contacts avec papa et ouais, moi.
Elle a 10 ans, c'est ça ?
Elle a 10 ans, ouais. Et c'est très, très simple sur la tablette, c'est très, très facile, très intuitif. Ça lui plaît beaucoup.
Voilà, bah, voilà, merci.
Et nous, ça nous rassure, c'est vrai.
Ça rassure
à chaque fois les contacts.
Vous passez par, vous fonctionnez par tranche d'âge. Hein.
Alors, on a, en effet, on a 2 interfaces. Ça commence, bon, on a dit 6, 9, 10, 14, mais après, ça dépend bien entendu des enfants.
Ça veut dire qu'il y a un côté un peu plus ludo-éducatif pour
au
les 6, 9
ans. Au début,
ans.
Disons que pour envoyer un email, on le fait par étapes. D'abord, il choisit le destinataire, après, il remplit son texte. On lui permet ensuite, sur une autre page, de rajouter des photos. Bon, donc, en fait, on l'aide un petit peu. Et puis, quand il lit ses messages, on les présente un par un. C'est plus simple, 6, 9 ans. En réalité, on dit 6, 9, mais assez rapidement, le parent change la configuration pour que l'enfant utilise l'interface 10, 14, qui ressemble plus à l'interface adulte, avec simplement un graphisme un peu plus sympathique, un peu plus adapté aux enfants.
Vous dites aujourd'hui, sur les 700 000, hein, c'est ça, 700 000 utilisateurs, il y a 20 000 enfants ?
Il y a 20 000 enfants environ, oui.
C'est mais beaucoup
20 000 enfants sécurisés. C'est-à-dire qu'en réalité, ça veut dire qu'il y a 20 000 enfants avant le collège. Parce que dès que. En fait, l'idée de Mélo Junior, c'est pas de donner une adresse mail petitlulu.fr. Parce que cette adresse mail, bien entendu, ils auraient bien aimé l'utiliser comme ça avec les grands-parents. Et puis, au bout de quelques années, bah, lorsqu'ils deviendraient adultes, bah, non, ils voudraient une vraie adresse mail. Et dans ce cas-là, ils vont chez Gmail. Donc non, en fait, c'est une vraie adresse mail dès le début qu'ils vont conserver plus tard et qui va évoluer. Le parent, il lui donne une 6-9 au départ. Il lui donne interface un peu plus adulte, un peu plus grande, pardon, après. Et puis, dès qu'il y a besoin, dès qu'il y a trop de contacts, dès que le parent
ça
a l'impression...
Ça devient une adresse, voilà, comme pour les adultes.
Le parent peut enlever la sécurité et l'enfant utilise normalement la messagerie. Et donc, les 20 000, c'est uniquement ceux qui sont sous contrôle des parents.
Eric ?
Bon, nous, on se connaît super bien, donc je vais tricher. La nouvelle version de NetC, puisque NetCourrier, c'était avant, c'était déjà des centaines de milliers d'utilisateurs, hein, des dizaines de milliers d'enfants. Maintenant, c'est Mélo, ça marche vraiment très bien. Et j'ai un petit coup de gueule rapide. Dans les écoles...
Ça m'étonnait aussi.
Eh ben oui, mais dans les écoles...
ça faisait longtemps.
Oui, oui, c'était juste l'été, vous inquiétez pas. Dans les écoles, certains pensent qu'il faut ouvrir un compte Gmail pour donner ça aux enfants obligatoirement. Donc, traquer dès le début avec tout un tas de choses. Alors, je sais qu'il y a Google App for Education, mais ils se sont fait condamner aux États-Unis, ils se sont fait attraper pour YouTube et compagnie. Donc, on va laisser tomber les
histoires. Donc, on peut sécuriser dans les écoles, c'est ça
pourquoi
qu'il faut dire.
Pourquoi pas Mélo ? Pourquoi pas Mélo ? Maintenant, ça marche très bien et il est super joli. Et Mélo Junior, il n'y a personne qui a la même. Donc, résultat, on peut donner aux profs et aux enfants. Et en tout cas, nous, on va pousser ça et Quant Junior.
Mais c'est moins connu, mais c'est parce que c'est moins connu.
Mais non, mais
c'est
facile,
Gmail.
Ça. Mais c'est trop facile. 700 000 personnes, ça fait déjà des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc, ça veut dire que moins connu, évidemment, Gmail, c'est plus gros. Ben là, Mélo, ça marche très bien. Voilà.
Ben voilà, le coup de gueule est poussé et peut-être que le message est passé du côté du ministère de l'Éducation nationale de Jean-Michel Blanquer. Elisabeth, je voudrais qu'on regarde une autre solution parce que toutes sont bonnes à prendre, hein, pour éduquer nos jeunes aux bonnes pratiques du numérique.
Oui, il y a une association qui s'appelle e-enfance, hein, e-enfance. C'est une association de lutte contre le cyberharcèlement parce qu'il faut aussi penser au cyberharcèlement quand on laisse nos jeunes seuls devant les écrans. C'est une association donc qui propose aux jeunes, aux parents et aux professeurs des formations sur les bons usages d'Internet. Elle a mis en place un numéro de téléphone. Je vais vous le donner. Le 0800 200 3000. 0800 200 000. Qui est gratuit, confidentiel. Et ça s'appelle NetEcoute. Hein, ils ont mis en place une assistance psychologique dans le cadre de cyberharcèlement, de piratage de comptes, des contacts indésirables. Et c'est d'ailleurs un programme soutenu par la Commission européenne et par le ministère de l'Éducation nationale.
On reste ensemble et on continue à parler des écrans aujourd'hui pour nos ados.
Il est 13h37. Europe 1.
Et on vous attend, 3921, Twitter. Venez nous dire comment vous y prenez, tiens, pour que vos enfants n'abusent pas des écrans. C'est la France qui bouge, à tout de suite. Europe 1.
Comment protéger nos enfants des écrans et d'Internet ? C'est le dossier de La France Bouge aujourd'hui et on en parle depuis 13h avec Raphaël Duchemin et ses invités.
Nous sommes avec Pascal Voyat, cofondateur de Mail Object qui propose Mailo Junior, entre autres le webmail gratuit et sécurisé pour les enfants et les ados. Yann Maréchal, fondateur et président d'Ars Nova System qui commercialise Parents dans les parages, portail de contrôle parental. Et Nathalie Moulin, présidente de l'association 10 jours pour voir autrement, basée à Chatou. Notre coach, c'est Eric Léandre et fondateur de Quant, évidemment. évidemment à mes côtés toujours Elisabeth Assayag. On a, je crois, une première question sur Twitter.
Oui, on a Marc qui nous dit « Beaucoup de parents sont souvent dépassés par Internet et surtout par les réseaux sociaux. Le plus grand problème, n'est-ce pas plutôt l'électronisme des parents ?»
Ah, voilà. L'électronisme des parents. Est-ce que quelqu'un a notre faute ?
Moi, je vois ce qu'il veut dire. Effectivement, les générations dans lesquelles je fais partie, puis même les un peu plus jeunes que moi, on n'a pas été élevé avec les smartphones, etc. Et donc les parents, il y a beaucoup de parents qui utilisent le smartphone pour téléphone, pour agenda, pour email, et ils n'ont pas pris la conscience totale de ce que ça peut apporter, que c'est en fait un ordinateur. Hein, les Canadiens disent un ordiphone, c'est un ordinateur et on a accès au monde entier et on peut avoir un site pornographique en deux clics. Quoi. Voilà.
Ça veut dire que nos enfants, eux, ont plus conscience que nous parce qu'ils sont nés avec cette génération, qu'il y a finalement à disposition dans l'outil.
Ils l'utilisent dans toutes ses possibilités. Voilà.
Alors, ils connaissent ou pas, regardez, ou plutôt écoutez.
Bonjour, je m'appelle Dora et j'ai 12 ans et demi. J'ai un téléphone et un ordinateur. J'ai des réseaux sociaux, mais je mets jamais mon nom et jamais des photos de ma tête pour pas qu'on me reconnaisse ou qu'on... Voilà. Mais sinon, je parle avec mes amis en SMS, à personne d'autre que je connais pas.
Combien de temps tu passes sur ton téléphone par jour ?
Le soir, beaucoup. Et le week-end, presque tout le temps. Parce que c'est un peu mon occupation, j'ai rien d'autre à faire. Enfin, c'est un peu une drogue, parce que quand tu commences, tu peux plus t'arrêter. Mais quand même, nos parents nous limitent.
Oui, quand même, nos parents nous limitent. Qu'est-ce qu'on peut dire à Dora ou à ses parents, d'ailleurs, aujourd'hui, Nathalie ?
Qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire...
Il faut arrêter.
Oui, il faut arrêter. Il faut au moins se rendre compte qu'on peut faire autre chose, qu'on peut s'ennuyer, qu'on peut rêver, qu'on peut...
S'ennuyer.
C'est
important
de
s'ennuyer, ça développe l'imagination.
C'est essentiel. Pour des enfants, c'est essentiel.
Eric ?
Oui, de toute façon, tout est dit. Hein, et l'enfant l'a dit. Hein. Je ne crois pas que ce soit l'électronisme des parents qu'on a dans notre société, c'est le peu de temps qu'on arrive à reconsacrer à prendre du temps avec nos enfants, et sans le faire exprès. C'est pas pour culpabiliser qui que ce soit, mais même quand on est très bon, en tout cas je crois, en informatique, le temps que je passe sur le téléphone, quand j'entends ce genre de choses, quand j'écoute cet enfant, je veux tout sauf ça, et je sais pas si j'y arriverai.
Alors, ce qui est intéressant dans ce qu'elle a dit, c'est que pour elle, le danger, c'est les autres. C'est-à-dire qu'elle a compris qu'on pouvait faire des rencontres,
qu'il faut
etc.
pas se mettre en photo,
ouais,
etc.
Mais elle n'a pas compris qu'elle y passait sa journée. Et c'est le rôle des parents d'expliquer ça. Quoi. C'est vraiment le rôle des parents.
Mais il faut que les parents prennent conscience.
Oui, il faut que les parents prennent conscience. Et peut-être qu'ils vont en prendre conscience en écoutant David qui nous appelle aujourd'hui. Bonjour David.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes orthoptiste et spécialiste de la vision binoculaire et vous dites, moi je voudrais expliquer justement par quel mécanisme l'excès d'écran est une nuisance pour nos yeux et pour notre cerveau, ce dont on a parlé tout à l'heure.
Oui, tout à fait. En fait, si vous voulez, depuis quelques temps, je reçois des patients en cabinet qui souffrent de gènes de plus en plus importants, et ça dès le plus jeune âge. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un décalage entre les mécanismes qui sont mis en jeu et l'incompréhension des personnes qui utilisent ces écrans du matin au soir, puisqu'aujourd'hui, on vit dans des mondes où les écrans sont omniprésents du matin au soir, que ce soit les téléphones et les ordinateurs ou les tablettes. Donc l'intérêt pour moi est de sensibiliser par la compréhension en expliquant en fait que lorsqu'on est devant un écran, on n'est pas passif, en fait on ne reçoit pas juste des informations qui nous arrivent en étant assis confortablement, mais en fait on a des muscles qui sont autour des yeux et à l'intérieur de l'œil qui sont en contraction en fait pendant tout ce temps. Et en fait, comme cette contraction, elle n'est pas douloureuse, eh bien, on se permet de rester des heures comme ça, pris par son travail ou pris par un film, puisqu'aujourd'hui, quand je discute avec les jeunes patients, ils m'expliquent que pour eux, la télévision n'existe pratiquement plus. En fait, tous les films qu'ils regardent, ce sont sur les téléphones, plus sur le téléphone pratiquement, tout le temps, d'après ce qu'ils me disent. Et donc, à ce moment-là, en fait, on contracte des muscles qui nous permettent à la fois de voir simple et d'autres muscles qui nous permettent de voir net. Ce sont les deux systèmes de convergence et d'accommodation. Donc, sans trop rentrer dans les détails, en fait, des contractions musculaires qui nous permettent de faire fonctionner nos deux yeux ensemble. Puisque comme nous avons deux yeux, ces deux yeux sont obligés de coordonner les deux images grâce à ces deux mécanismes musculaires. Et en fait, il y a une incompréhension totale. Quand les gens viennent me voir en fin de journée en ayant les yeux extrêmement fatigués, ouais, ils n'ont pas du tout conscience d'avoir contracté des muscles, en fait.
Et oui, alors ils n'ont pas conscience que c'est à cause de leur utilisation excessive du téléphone portable. Merci beaucoup, David, de votre témoignage. C'est vrai que c'est important de comprendre pourquoi il faut, justement, pour les enfants et aussi pour nous, les adultes, essayer de modérer l'utilisation. Merci à tous les trois, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Europe 1 pour nous aider à gérer cette utilisation.
Merci beaucoup.
Il est 13h44. Europe 1. Ils disent être pomiculteurs et pâtissiers. Venez dans un instant découvrir l'histoire familiale de Pomone. C'est l'entreprise qui va bien. A tout de suite. 13h48, on retrouve Raphaël Duchemin pour la suite et fin de La France Bouge avec à présent l'entreprise qui va bien. Et aujourd'hui, elle en a choisi une spécialisée dans la fabrication de tartes aux pommes et pâtisseries.
Et cette entreprise, eh bien, c'est Pomone. Bonjour Eric Sarrazin.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le PDG de cette entreprise qui met, j'ai envie de dire, la pomme dans tous ses états. Ça n'est pas un hasard parce que c'est votre arrière-arrière-grand-père qui a, je crois, commencé à vendre des fruits. On est à Gennevilliers et on est dans les années 1850.
Oui, voilà. Mon arrière-arrière-grand-père était, ce qu'on peut dire, permaculteur, même dans le village de Vaugirard, qui est maintenant la rue de Vaugirard. Et il poussait sa carriole pour vendre sa production locale de fruits, de légumes, ses œufs, parce que voilà, il y avait à la fois l'élevage comme de la culture.
Et puis la génération suivante, elle est très rapidement partie s'installer au nord de Paris. Je crois que c'est votre arrière-grand-père qui a épousé une fille de viticulteur.
Exactement.
C'est comme ça que l'histoire
démarre, a perduré. Effectivement, dans le nord de Paris, sur Groslay-Montmorency, mes grands-parents se sont installés d'un côté de la viticulture, de l'autre de l'arboriculture maraîchage. Et à partir de là, bon, la viticulture, il faut se rappeler qu'au début du XXe siècle, il y a eu phylloxéra, le vigneron français a été dévasté.
Et, du coup, il faut trouver une autre activité.
Voilà, et ils se sont accentués l'arboriculture sur la pomme et la poire. Et ils ont commencé à livrer aussi le ventre de Paris, les halles de Paris, jusqu'en 1973.
Rungis.
Voilà, après Rungis, voilà.
Dans les années 50, c'est vraiment là que s'opère le tournant en direction, oui, de la pomme.
Oui, tout à fait, parce que bon, y a le commerce moderne qui arrive, la poire elle se gâte rapidement dès qu'on la touche. Et effectivement, mon grand-père a commencé à orienter plus sur la pomme, et c'est mon père qui a vraiment fait que de la pomme, et notamment en Val-de-Loire, dans les Hauts-d'Anjou, où il a fallu un peu, je dirais, s'éloigner des villes pour pouvoir effectivement produire et mettre en place nos vergers de façon plus importante.
Du coup, vous, tout petit, vous avez l'habitude d'aller dans les champs, récolter les pommes, travailler avec votre grand-père, avec votre père.
C'est ça.
Vous baignez dedans.
Haut comme trois pommes, tombé dans la marmite.
Mmh, évidemment.
J'accompagne effectivement mon grand-père, mon père, à tailler les arbres, à éclaircir, à cueillir, à conditionner, voilà, tout ce savoir-faire qu'on se transmet de père en fils.
Et puis, votre père va trouver une solution aussi pour faire face à la surproduction de pommes, notamment. On est dans les années 80, là. Il a l'idée de proposer une transformation de la pomme.
Exactement.
Des prêts à cuisiner.
Exactement. Arrive effectivement un besoin pour les pâtissiers et les restaurateurs d'une pomme prête à cuisiner. Donc,
déjà épluchée.
Voilà, on s'est mis à éplucher les pommes, on s'est mis à les trancher et à les livrer autour de chez nous, en région parisienne et après dans toute la France, pour pouvoir effectivement avoir des pommes avec des variétés bien précises, des qualités bien précises, adaptées à leur recette.
Et puis après, c'est le tournant, le vrai tournant pour vous, avec l'arrivée de Pomone. On est en 1992. Là, c'est les pâtissiers qui vous disent « mais on va faire quelque chose ensemble, il va falloir finalement mixer nos savoir-faire ».
Ensemble, effectivement, un de nos clients pâtissiers est venu nous voir et me dit « Messieurs Sarrazin, je crois qu'on va marier nos savoir-faire, nous on est des pâtissiers, vous êtes des arboriculteurs, la pomme, elle évolue tous les ans parce que les données climatiques, la saison est différente, c'est comme une moisson, le blé fait des farines différentes, il faut effectivement, et on a créé un atelier de pâtisserie au cœur de notre verger. »
Atelier de pâtisserie qui donne naissance à des tartes aux pommes, évidemment. Elle est avec nous, hein, cette tarte pomme sur europe1.fr si vous nous suivez. Puis on va vous demander d'autres produits. Vous allez lancer une pomme cuite pour les maisons de retraite. Puis très vite, des gourdes, elles sont là aussi, sous la marque Mille Fruits. L'année dernière, vous avez été stoppé parce qu'il y a eu un gros incendie sur votre site de production. Vous avez malgré tout redémarré. Comment ça va depuis ?
Ah, ça nous est arrivé effectivement le 24 février, c'était cette année. Ça va mieux, on redémarre, on retrouve notre capacité à transformer grâce à nos collaborateurs, à l'énergie de nos collaborateurs. Il a fallu aussi faire le deuil parce qu'il y a tout un processus, oublier...
changer de lieu de production.
Exactement. Trouver des lieux, commander des machines pour pouvoir continuer à produire. Donc là, en septembre, on est arrivé effectivement à recommencer à produire nos purées de fruits, nos pâtisseries également. Dans le mois pratiquement qui suivait, on a pu effectivement aménager dans un ancien magasin un atelier de pâtes. Voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de solutions mises en œuvre. Et je remercie tous mes collaborateurs de cet engouement et de cet engagement.
Et ils sont nombreux, hein, 320 collaborateurs. Eric ?
C'est très beau. Hein. C'est une histoire qui remonte à quand Paris avait des vergers en plein Paris. Quoi. Et aujourd'hui, est-ce que vous avez rajouté de la technologie ? Puisque en Israël, en ce moment, ils sont en train de faire des drones pour regarder si les fruits sont mûrs. C'est dans les projets, ça ?
Ça, on est aussi sur des robots de cueil. On est aussi sur... pour faciliter la taille, parce qu'un mauvais coup de sécateur va faire que l'arbre, pendant 3 ans, il va avoir du mal à se remettre, parce que voilà, un coup de sécateur, c'est une mise à fruit de l'arbre. Donc on veut accompagner, parce que c'est de transmettre le savoir-faire qui est de plus en plus difficile, il faut la faire plus rapide. Donc on imagine un peu des Google Eyes avec, on est devant l'arbre avec des algorithmes agronomiques, c'est pas mathématique, mais voilà, de mathématiser des suivis agronomiques permettraient effectivement de donner le bon coup de sécateur pour mettre une bonne mise à fruit de l'arbre. Voilà, on a des technologies. Il faut assembler tous ces différents intervenants. Il faut aussi des capitaux. Mais c'est en train de se mettre en place. Il y a des perspectives.
La suite, c'est toujours en famille. La relève est déjà là.
Exactement. Bah, j'ai 3 garçons. Je leur souhaite de reprendre. Je commence à replanter des arbres parce qu'un arbre, c'est 20-25 ans. Imaginez, j'ai 46 ans. Donc, je déjà en plantant des arbres. On en plante à peu près 15 000 par an. Hein. Bon, c'est des puits de carbone aussi. Hein. C'est aussi le verger et source aussi. Et on travaille aussi depuis plus de 20 ans en agriculture raisonnée, ce qu'on appelle maintenant le verger éco-responsable.
C'est Pomone, c'est l'entreprise qui va bien. Merci Eric Sarrazin d'être venu nous raconter son histoire. Merci à Eric Léandre qui était notre coach. Elisabeth et Céline, rendez-vous demain.